Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons méditer un texte simple. Mais je crois qu'il est tout à fait dans l'air du temps de ne pas perdre courage, de regarder, eh bien, au Seigneur. Et je vous propose donc cette réflexion dans le livre des Hébreux, au chapitre 13, et nous allons lire quelques passages, quelques versets, et j'y apporterai un commentaire susceptible de nous exhorter. Ce sera une exhortation ce matin. Voilà. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur, soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu au plus tôt. Voilà, c'est le dernier chapitre du livre des Hébreux. Et ce dernier chapitre met en évidence deux sujets essentiels de la foi chrétienne. La première chose, c'est la conduite du chrétien, qui comprend d'abord, dans son expression, l'amour fraternel, l'amour conjugal, ou l'amour des fausses richesses. Et puis, en deuxième lieu, il s'agit de la parole de Dieu que l'on appelle aussi la doctrine. La doctrine qui est un fondement de la foi, fondement de la foi, qui met en relief trois aspects particuliers. La permanence de Christ, il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. La deuxième chose, c'est la grâce suffisante pour affermir notre vie spirituelle. Et enfin, les sacrifices nouveaux auxquels Dieu prend plaisir. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait l'immolation de quantité infinie d'animaux. Maintenant, c'est fini tout cela. C'est les sacrifices nouveaux. On pourrait appeler ça les sacrifices de la Nouvelle Alliance. Alors, on va commencer par la conduite morale. À travers les 6 premiers versets que nous avons lus ensemble, il nous est dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Il y a certainement, et bien de bonnes raisons pour cela, parce que s'il est en baisse, cet amour fraternel, c'est la preuve pour l'Église que l'amour pour Christ se refroidit. Partout où il y a véritablement de la ferveur, de l'amour, de l'intérêt pour mes frères et mes sœurs, pour les hommes en général, c'est parce que brûle en moi l'amour pour Jésus-Christ. C'est logique. Et le mot d'ordre, c'est persévérer. Vous avez remarqué ? Si vous prenez une concordance, vous verrez par vous-même combien ce mot revient dans toute la Bible. Persévérer. L'amour fraternel s'affirme par des actes tels. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont logé des anges. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein ? Mais toujours est-il que, quoi qu'il en soit, eh bien, d'ouvrir son cœur, c'est aussi ouvrir, finalement, eh bien, d'autres possibilités pour des gens qui sont dans le besoin. Exercer, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, lorsque les choses naturellement se présentent, et de le reconnaître comme venant aussi de Dieu. L'esprit dans lequel nous avons besoin de comprendre cette phrase, donc l'exercice de la bienfaisance, on peut le dire d'une manière générale, c'est que nous avons à le faire comme si nous recevions Jésus-Christ lui-même. Voilà. Alors ça paraît peut-être très, très fort comme expression, mais je dois considérer que il est aussi, mon frère, ma sœur, sauvé par Jésus. Et c'est dans cet esprit que nous devons le comprendre dans la personne de nos frères et de nos sœurs. Parce qu'il nous est dit que toutes les fois que vous avez fait ces choses, eh bien, Jésus nous le dit d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, « Car toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc la conception, elle est bien là. Ce que je le fais pas uniquement d'une manière humaine, naturelle et peut-être remplie de sympathie, mais je le fais parce que c'est comme si je le faisais pour Christ. Et nous savons que Jésus donc l'a testé. Ensuite, au verset 3 de notre paragraphe, il est dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers ». Donc il y a toujours une relation très très forte entre ma foi, mon amour, mon attachement à Christ, et qui doit être, eh bien là, la conséquence de mon comportement moral, de mon comportement affectueux, nous pourrions dire, vis-à-vis de ceux que je reconnais, de ceux qui se reconnaissent comme enfants de Dieu, au même titre mes frères et mes sœurs. C'est une sympathie, cette fois-ci, à l'égard des prisonniers qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur âme et dans leur esprit, et tous ceux qui peuvent être maltraités dans le monde. Vous savez qu'il y a dans nos églises des journées, des revues, toutes sortes de choses qui nous sont données par rapport à tous ceux qui sont dans la fortune, parce que nous avons un privilège chez nous, c'est que nous avons la liberté de conscience, et que nous ne sommes pas en opposition avec un régime dictatorial, quoi que l'on en dise. Mais toujours est-il que quand même, nous avons quand même beaucoup, beaucoup de liberté, mais ce n'est pas certainement le partage de d'autres, dont les souffrances de ces hommes et de ces femmes, dont les peines servent à nous apprendre à porter leur fardeau. En tous les cas, une chose que nous pouvons faire, c'est bénir et remercier le Seigneur de pouvoir vivre dans un pays en paix. De vivre dans un pays où il y a une tolérance de la foi ou de la croyance des autres. Et cela doit nous amener, finalement, eh bien, à prendre ces choses et naturellement nous amener à prier, à penser à eux, comme vous aussi, vous êtes dans un corps. Voici maintenant un troisième sujet, c'est celui de l'amour conjugal. Alors vous savez que ça, c'est aussi un grand débat, parce que nous sommes dans un monde de déliquescence, un monde de délitement, si vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, il faut s'accrocher pour comprendre quelque chose. Parce qu'il y a un mot qui est véritablement Eh bien là, battu en brèche, c'est le mot fidélité, fidélité aux engagements. Donc, il est bien question de tout cela, l'amour fraternel, ceux qui souffrent parce qu'ils sont prisonniers et maltraités, et puis donc cet engagement conjugal, entendons cela par le cercle de la famille. Au verset 4, il nous est dit que le mariage soit honoré. Il n'y a pas que la Bible qui le dit, hein. Monsieur le maire le dit aussi, hein. Je tiens quand même à le rappeler. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça, je pense que c'est aussi évident. Parce que derrière tout cela, eh bien, il y a naturellement, il y aura des conséquences. Et il y a forcément des conséquences. Des conséquences de dissolution, des conséquences de peine, de souffrance, des ressentis d'abandon, des ressentis où non seulement ce n'est pas seulement un abandon affectif, mais ça peut être un abandon économique et matériel. Hein, c'est quelque chose qui marque et qui touche notre société d'aujourd'hui. Et il y a derrière tout cela, dans cette exhortation, une notion d'honneur. D'honneur pour soi-même. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis non, c'est non. Mais quand j'ai dit oui, c'est oui. Avec toutes les conséquences que cela peut avoir. En sachant bien que le Seigneur, à partir du moment où je prends, fait et cause pour une position, mais il m'aidera même si les choses ne sont pas difficiles. Qui a dit que le mariage était le paradis ? Non. Il y a, selon la formule civile, pour le meilleur et pour le pire. Alors le meilleur, on veut bien du meilleur, mais le pire. Hein? Le pire. Eh bien, quand on est chrétien, le Seigneur pourvoit à tout cela. Et il nous aide à nous aimer. Et il nous aide à nous renouveler. Il nous donne l'intelligence de la complicité. Il nous donne l'intelligence de pouvoir faire des choses que nous n'avons peut-être plus fait depuis pas mal de temps parce que nous avons été mangés, dévorés par toutes les choses qui nous environnent et qui font qu'elles sont eh bien, une puissance de destruction pour le couple et pour la famille. Parce que c'est parti lié. Hein. Le foyer, le couple, ça va ensemble hein, et on n'est pas tout seul. Alors les choses ne sont rappelées. C'est une question d'honneur pour soi-même. Autrement, je deviens parjure. Et puis, de pureté. Donc, le maître mot, c'est la fidélité. C'est cet exercice à développer dans notre volonté. Je le rappelle, aimer, c'est un vouloir. Je veux aimer. Ce n'est pas seulement un sentiment fugace, passager qui passe. Je le prends aujourd'hui, je l'oublie demain. Non, c'est une volonté, c'est un vouloir à persévérer avec cette complicité, finalement, pour aimer. S'il n'y en a plus qu'un qui aime, ça ne va plus. Hein. Et il faut se donner les moyens. Il faut se donner le temps de la prière. C'est pourquoi je le rappelle, vous ne pouvez peut-être plus l'entendre, mais je le rappelle encore, un couple chrétien, une des priorités, c'est de prier ensemble. Et vous allez voir combien les choses changent. C'est de pouvoir nous unir. Mais notre temps est mangé. Notre temps nous est volé. Et nous nous laissons voler nous-mêmes. Alors après, naturellement, il arrive ce qu'il arrive. Les désastres de notre société d'aujourd'hui. L'ennemi numéro un, c'est l'égoïsme. Ouais. L'égoïsme. Parce qu'on revient toujours à soi. Mais aimer, c'est pas pour soi, c'est pour l'autre. Et si on sait donner ce qu'il faut à l'autre, eh bien, il y aura naturellement un retour. C'est exactement la même image que l'image sublime du christianisme. Christ s'est donné pour son Église. Et en retour, qu'est-ce que nous faisons par affection, par reconnaissance? C'est que nous nous attachons à Christ, en comprenant qu'il a donné ce qu'il y avait, le nec plus ultra, naturellement. Et l'exhortation qui nous est donnée, c'est justement de veiller à ne pas abandonner le premier amour. C'est une belle exhortation qui nous est donnée. Et l'aide de Dieu est indispensable. Et pour avoir cette aide de Dieu, il faut le demander. Ça s'appelle tout simplement la prière. Ensuite, troisième point dans cette première partie de ces principes moraux, c'est l'amour des fausses richesses. Il est toujours question d'aimer, mais d'aimer ce qui ne mérite pas d'être aimé comme tel. Le cœur humain est souvent déviant. Il a du mal à aimer les êtres que Dieu aime et il s'enflamme pour tout ce qui est sans âme et sans valeur réelle. C'est une étrange inversion. Ça, c'est le péché qui a fait cela. Par exemple, l'argent. et vous l'avez lu avec moi, il est dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » C'est question d'aimer, hein, c'est de l'amour aussi. Hein. « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que Dieu nous aide. Je crois que ce qui est donné là, c'est utile incontestablement, mais non digne d'amour. L'argent est nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans le monde dans lequel on est, c'est nécessaire. Mais, en tous les cas, au sens où nous parlons d'amour, l'argent n'est pas digne d'amour. Et d'ailleurs, on le dit, on l'entend, j'aime l'argent, j'adore l'argent. Mais lui-même, est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Infidèle qu'il est de passer d'une main à une autre, des mains propres et des mains sales, excusez-moi, hein, et à servir à tout et à n'importe quoi. Maintenant, peut-être qu'il y a certains enfants de Dieu qui ont besoin de réviser leur position par rapport à cet attachement à l'argent. J'ai toujours remarqué que ceux qui veulent de l'argent, qui font beaucoup de choses pour en avoir, ils ont beaucoup de mal, beaucoup de peine, beaucoup de déception. Mais lorsque notre rapport est tout à fait différent, mais le Seigneur pourvoit tous nos besoins, et ça c'est quelque chose de formidable. Parce que notre cœur est ailleurs, il est en Christ, il est en Dieu. Et faisons attention de ne pas tomber dans la psychose d'aujourd'hui où on n'entend parler que d'argent. On n'entend parler que de ça. C'est terrible. Et quand il est dit « ne vous livrez pas », qu'est-ce que ça veut dire « se livrer » Ça signifie s'adonner à, s'offrir totalement, se vouer. C'est finalement une idole. Quelque part, c'est une idole. Alors, pour échapper à cette situation, à cette attraction envoûtante et enivrante, un seul moyen efficace, c'est le contentement et la satisfaction de ce que Dieu nous donne. On vient de passer des jours très chauds. Hein. Et on n'a peut-être pas fini d'en voir. Mais écoutez, il y a quelque chose, enfin moi je ne veux pas faire de politique, hein, ce n'est pas mon rôle. Mais je me dis, quand je regarde, et on est à même dans notre contexte de regarder ce qui se passe ailleurs, de regarder dans les pays du tiers-monde, parce qu'on envoie des missionnaires, de voir un petit peu même dans notre espace européen, je pense que quand même, quelque part, il faudrait calmer un petit peu le jeu. Parce qu'on n'est pas les derniers des derniers, quand même, pour le matérialisme. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent. On sait tout cela, naturellement. Mais, quelque part, je me dis, mais est-ce qu'il n'arrivera pas un temps où il n'y en aura plus pour personne ? À force de tirer sur la corde, on risque de prendre, tout sur la tête. Hein. Et je crois que ça, c'est aussi un rappel. Et nous, chrétiens, je ne parle pas des autres, je n'ai pas à juger les autres, mais nous, chrétiens, faisons attention d'avoir une attitude qui soit une attitude qui nous donne de regarder à Dieu dans ce qu'il est, certes dans ce qu'il donne, parce qu'il est notre Père qui veille sur nous, ça c'est une chose acquise, mais de ne pas tomber dans l'insatisfaction et le mécontentement permanent. Vous savez, on vit avec ce que l'on a. Mais moi, je bénis le Seigneur avec ce que j'ai. Je ne regarde pas ce que je pourrais avoir plus. Je peux regarder à ceux qui ont moins, pour prier pour eux. Mais en tous les cas, je dis merci Seigneur, parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. C'est comme ça qu'on grandit dans notre communion avec le Seigneur. Parce que si on verse dans cette ambiance qui est la nôtre, dans l'état d'esprit qui est le nôtre, alors à ce moment-là, je pense qu'on sera toujours mécontent et on sera toujours insatisfait jusqu'au bout. Parce que la chose qui va faire la différence, c'est que ce que j'ai, je le reconnais comme venant de mon Dieu. Et venant de lui et par lui, jour après jour. C'est pourquoi nous pouvons être reconnaissants. Merci Seigneur. Merci de ce que tu donnes et merci de ce que tu prends ou de ce que tu me reprends. Ça, c'est Job. On en a parlé il y a quelques semaines. Et si la tentation est grande, je me confie dans ce qui est plus précieux que le pouvoir des richesses. Je peux être tenté parce que je suis un homme, comme tout à chacun. Alors je regarde dans ce qui est plus grand, plus beau, plus fort, plus précieux que le pouvoir des richesses, c'est le pouvoir des promesses. Et le pouvoir des promesses, nous l'avons devant les yeux, car Dieu a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Est-ce que ce n'est pas vrai pour nous? Dans notre vie, nous avons passé avec mon épouse des moments difficiles. Mais je peux vous dire, je peux vous l'affirmer, même si on était vraiment juste à la corde, jamais, au grand jamais, nous n'avons vu Dieu nous délaisser et nous laisser dans une situation impossible. C'est souvent au dernier moment, juste au fil du rasoir, que tout a basculé. Et ça, c'est beau. Ça, c'est formidable. Et moi, je voudrais affirmer que celui qui nous dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », c'est un Dieu qui dit la vérité. Pour autant que je le crois, pour autant que je lui fasse confiance, pour autant que je lui demande de calmer mon cœur, mes idées, mes pensées, mes raisonnements et tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui a toujours pour résultat heureux de me faire confesser et proclamer avec confiance, libéré du tracas et de l'inquiétude et du souci, le verset 6, quand il est dit ceci, dans ce texte, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Oui. Qu'il soit là ou qu'il soit ailleurs, quelle que soit l'élévation de son pouvoir, mais que peut me faire un homme? Parce que ma fille n'appartient pas à un homme, elle appartient à Jésus. Elle appartient à Dieu. Et ça, c'est réconfortant de le savoir. Et peut-être que dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, s'il y a des frères et des sœurs qui vous vous inquiétez de la situation, de tous les aléas de ce monde et de ce temps, mais faites confiance au Seigneur. Et c'est le moment justement de faire confiance au Seigneur. On a vu que dans les temps d'abondance, eh bien, on s'éloigne de Dieu. Dans les temps de liberté, on prend des libertés avec Dieu. Peut-être que les temps vont être un petit peu différents et que l'on aura un petit peu moins, mais qu'on aura plus du côté du Seigneur. On se souvient de nos pionniers qui ont été nos prédécesseurs dans l'œuvre de Dieu. Je peux vous dire qu'ils n'avaient pas grand-chose. Sinon, rien du tout. Et c'était des hommes de feu, des hommes de foi. Et nous avons besoin, dans la grâce, et prier pour nos jeunes, parce qu'ils ne connaissent rien. Nous encore, nous sommes nés après-guerre. Il n'y a peut-être pas eu des choses qui ont été toujours très faciles. Mais prier pour nos jeunes. La grande préoccupation de notre temps aujourd'hui, c'est notre jeunesse. Moi, je me fais du souci pour mes petits-enfants. Ils sont encore petits, mais je me dis dans quel monde ils vont vivre. Et je prie aussi pour leurs parents, pour qu'ils tiennent le coup. Même s'ils sont enfants de Dieu, même s'ils sont chrétiens. Alors, ce sont des choses qui sont importantes que nous le rappelions, parce que c'est toute la différence, c'est toute la difficulté qui consiste en ce que le chrétien est un être suspendu entre les réalités conflictuelles de la terre et sa foi dans le Dieu Tout-Puissant du ciel. Il est disputé entre le visible et l'invisible. Ce qui fait la différence et qui procure la paix au fond de nous-mêmes, la paix du cœur, c'est tout simplement notre foi, la foi du chrétien, sa foi dans ce qu'il sait, mais ne voit pas. Nous le savons, mais nous ne le voyons pas encore. Et parce que nous le croyons sans le voir, eh bien Dieu va le mettre en évidence et ça va devenir visible. Et j'ai besoin de croire, tout simplement. Le deuxième paragraphe, brièvement, il était question de la parole de Dieu sous trois aspects particuliers qui est le fondement de notre foi. Voilà. Où va-t-on chercher la foi? Qu'est-ce qui nous inspire dans notre vie de chrétien? Qu'est-ce qui nous permet de rester chrétien dans un monde où tout bouge, où c'est des séismes et des tremblements de terre, où nous entendons les gens hurler, les gens casser, les gens brûler, tout ce que vous voulez? Qu'est-ce qui fait que nous allons rester dans cette stabilité intérieure, dans la paix, et que nous allons pouvoir aider aussi les autres. Des autres qui tremblent, des autres qui vacillent dans cette période d'incertitude. Eh bien, c'est à cause de cette affirmation. C'est toujours un rapport de foi. Au verset 8, il est dit, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, à toujours, à jamais. » Il nous est montré quelque chose de très évident, c'est la permanence. de celui qui demeure et en qui on peut compter en tout temps, et je dirais même dans tous les temps, soulignant la différence entre les hommes qui passent, fussent-ils des grands hommes de foi, de ceux qui nous ont précédés, qui ont été des grands hommes de foi. Ils passent, ils sont passés, nous passerons, nous allons passer, nous aussi. Et au verset 7, c'est bien souligné d'une manière tout à fait particulière, « Souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, pasteurs et autres, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle était leur fin de leur vie et imitez leur foi. » Alors, on n'a pas mis notre foi dans Abraham, on n'a pas mis notre foi dans Moïse, on n'a pas mis notre foi dans Spurgeon ou dans les grands hommes qui ont été et qui ont présidé le réveil. Le réveil que nous, qui a donné l'Église d'aujourd'hui. Non. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tous ces hommes ont été des conducteurs spirituels, certainement du passé, dont nous pouvons retenir l'exemple et le souvenir et les imiter. Ils ont été et ne sont plus, cependant, Jésus qu'ils servaient, lui subsiste. Jésus demeure. Nous avons eu des formateurs spirituels. Moi, j'ai eu un père spirituel pour me conduire dans la vie, dans le ministère. Il n'est plus aujourd'hui. Je garde. Il m'a imprégné profondément de ce qu'il a été en tant que fidèle serviteur. Mais il n'est plus. Et je pourrais dire, eh bien moi, je suis mort avec lui quand il est mort. Mais non, c'est pas ça. Il m'a communiqué un héritage que moi, je dois communiquer à vous d'abord. Et puis, à tous ceux qui viendront derrière. Et moi, je passerai. Il ne faudra surtout pas s'attacher à moi. C'est ça ce qui fait les sectes. Quand on vénère un prophète, quand on vénère un homme qui a été avec un grand charisme et qui s'est singularisé. Mais non, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, tout simplement, parce qu'il demeure éternellement. C'est toujours vers lui et à lui que nous devons diriger nos cœurs. Autrement, on n'avance plus. Et il y a bien des églises qui sont restées statiques, qui n'ont plus avancé parce qu'ils se sont arrêtés à un grand homme qui a apparu dans leur histoire. Un fondateur, un revivaliste. Et on s'est arrêté, on en a oublié Jésus-Christ. C'est l'histoire de ces grandes communautés historiques qui font l'histoire de la chrétienté aujourd'hui, où on parle de souverains, on parle de grands hommes, de la haute pensée chrétienne, mais on ne parle plus de Jésus. On a remplacé Jésus par des saints et des saintes. On a remplacé Jésus par toutes sortes de choses. On a remplacé sa parole vivante et permanente tout simplement par des traditions, par du rituel, par toutes sortes de cérémoniels. Mais on ne s'arrête pas à là. On ne s'arrête pas à ça. Je poursuis. Jésus-Christ, donc, est le même éternellement. Au verset 9, il est dit ceci. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont, qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp, j'expliquerai. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Un peu compliqué, mais on va essayer de décoder tout ça. Il s'agit de la grâce. À travers ces quelques versets, ces cinq versets, il s'agit de l'émergence de la grâce qui est présentée comme seule suffisante pour affermir le cœur des hommes. Le danger signalé est de s'attacher aux prescriptions de la loi. Puisqu'il y fait référence, eh bien, à l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'ancienne alliance de Moïse, des Juifs. Et ça, c'est le danger. Ça paraît très, très anodin, mais c'est une grande subtilité, mes frères et sœurs. Donc, de s'attacher aux prescriptions de la loi, que l'on appelle le légalisme, que l'on appelle le formalisme, le cléricalisme, si vous voulez aller par là, et puis tout le reste, qui entretient l'idée qu'on peut être sauvé par les œuvres plus que par, plus par ce que l'on fait que par ce que l'on croit. Vous savez, je le répète, mais nous le savons tous. Quand Jésus a expiré à la croix du calvaire, il a dit cette dernière parole, ou cette avant-dernière parole, « Tout est accompli ». Et la tendance, chez les Juifs d'hier, dans le christianisme de l'histoire, la chrétienté que nous connaissons autour de nous, quels que soient les ismes qui terminent leur appellation, c'est que finalement, on a voulu refaire ce que Jésus avait accompli de parfait en pensant que c'était imparfait. Et on annule à ce moment-là, et c'est d'une gravité, c'est très grave, on annule à ce moment-là le plan de Dieu de salut. En disant, mais il aurait pu y avoir un autre moyen de salut que par Jésus-Christ. Et c'est ce que les hommes ont fait. On est sauvé en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, en le reconnaissant comme victime expiatoire pour nos péchés. Tout simplement, c'est par la foi. Et ces doctrines... Ces prescriptions sont données sous le vocable d'aliments. On se nourrit de tradition, on se nourrit de légalisme, on se nourrit de tout cela, et c'est le terme qui est employé, c'est aliment. Il n'y a qu'un aliment qui vaille. C'est la parole de Dieu absorbée par la foi, ingérée dans la foi, éclairée par le Saint-Esprit. Alors, aliments qui ne peuvent à la fois nourrir l'âme et affermir la vie spirituelle. L'apôtre le rappelle, aliments qui n'ont servi de rien ou à rien à ceux qui y sont attachés. Mes frères et mes sœurs, nous vivons par la grâce, nous vivons par la foi, c'est tout. C'est ça justement les caractéristiques de l'Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Je dirais que la loi ébranle et la foi affermit. La foi, la loi nous amène toujours à douter. J'en fais pas assez. Est-ce que c'est bien? Je suis culpabilisé. Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est... Ne regarde pas, ne mange pas, ne goûte pas, ne respire pas, etc. Elle ébranle. Alors que la foi, c'est tout le contraire. Elle nous rassure en Jésus-Christ qu'il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Mais vous allez me dire, je suis imparfait. Mais moi aussi, je suis imparfait. Et j'ai encore du chemin à faire. Mais je me confie dans le Seigneur pour le faire, ce chemin. Et je ne veux pas le faire par moi-même. Parce que là, je suis perdu d'avance. Parce que ce n'est plus Christ qui me sauve, c'est moi qui me sauve. Tout simplement. Parce que ce salut ne repose pas sur notre propre justice, mais uniquement sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, donc sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui me fait grâce, tout simplement. Alors il est question d'aliments, mais il est question d'autel aussi dans ce verset. Notre autel à nous, ce n'est pas celui de l'Ancien Testament, dans le temple, mais c'est Golgotha, notre autel. Tiens, vous avez la preuve ce matin. Voilà, c'est Golgotha, notre autel. Il a dressé pour moi une table. Et ma coupe déborde, dixit David dans le psaume 23 que vous connaissez bien. Il faut choisir entre la loi et la grâce, entre le sang des animaux, tout le ritualisme, et celui de Christ. Et c'est le verset 10 et 11 qui nous l'affirme. Il est dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement que l'invitation qui nous est faite de sortir et de rompre avec un système de pensée, un système de croyance, un système d'habitude, d'us et coutume, soit-il même chrétien, voire même évangélique, je me permets, de rompre avec un système qui nous illusionne sur notre propre salut, selon l'exemple de Christ lui-même, puisqu'il nous est dit « Sortons donc pour aller à lui hors du camp ». Un camp, c'est pour garder. On en a même donné des noms abominables, concentration. Des camps, c'est pour clore, clôturer, garder. Hors de Jérusalem, sous la loi. Sortons, Jésus n'est pas mort à Jérusalem dans la vie, mais il est mort en dehors de Jérusalem. En dehors du système, si vous me permettez, un petit peu j'extrapole, mais du système judaïsant. C'est pour ça qu'il est mort à la porte de Jérusalem, parce que Jérusalem correspond et symbolise finalement la loi. la loi. Hors de Jérusalem, sous la loi, avec ses traditions religieuses, c'était le judaïsme pour les juifs, mais ce sont toutes les cultures religieuses, superstitieuses, parfois superstitieuses, superstitieuses même parfois chez nous, j'ose le dire. Ah ouais. Si on voulait fouiller, on pourrait trouver des choses qui seraient certainement anti-bibliques, anti-scripturaires. Emportant notre opprobre. Parce que si nous voulons vivre dans l'esprit, nous serons aussi sous le coup de l'opprobre. Parfois même de nos propres frères et sœurs qui ne nous comprennent pas. C'est-à-dire, emportant son opprobre, notre prise de position pour Jésus, pour la vie de l'esprit, nous vaudra probablement le rejet, l'incompréhension, voire même peut-être la persécution. Qu'est-ce que Paul a vécu? Il l'a vécu comme cela, de cette façon. Mais souvenons-nous qu'il nous a ouvert la route et montré l'exemple. C'est pour cela, il nous est dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier, c'est-à-dire de mettre à part, le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous savez, on évite de tomber dans un enfermement, hein, de raisonnement même biblique, évangélique et tout ce que vous voudrez. On a besoin d'un renouvellement, on a besoin d'un coup de souffle, mes frères et sœurs. On a besoin d'être purifié, on a besoin d'être nettoyé dans notre conception. Parfois. Que le croyant véritable ne redoute pas de sortir du camp, car sa cité, la nôtre, pour chacun d'entre nous, elle n'est plus terrestre. Elle n'est plus les bonnes grâces des hommes. Les applaudissements des hommes, la faveur des hommes. Mais elle est céleste, c'est-à-dire qu'elle est spirituelle. C'est pourquoi le verset 14, quand on lit bien le texte et quand on l'étudie, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Mes frères et sœurs, tout nous ramène véritablement à regarder vers le ciel. Et vous savez que dans le ciel, il n'y aura plus de religion. Hein. Il n'y aura plus de tradition. Il n'y aura plus de ritualisme. Il n'y aura plus toutes ces choses-là. Il y aura Jésus dans toute sa splendeur. Et là, ce sera tout à fait différent. Plus notre attitude sera franche et courageuse, plus la louange sera joyeuse et ardente. Ce qui nous conduit naturellement à cette dernière proposition, ce que je vous ai avancé tout à l'heure quand on a commencé ce message, les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir, c'est tout simplement le verset 15 où il est dit ceci, « Par lui, en Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. » Tout est cohérent dans ce que nous avons étudié ce matin. Ça passe d'une étape à une autre pour nous amener à la louange, pour nous amener à l'adoration. Vous savez, l'étude d'un texte, hein, c'est pas de prendre et de faire n'importe quoi. Hein. C'est de passer du temps, de bien réfléchir, de méditer, de comparer, de prendre la Bible et de tourner les pages, et de nous renvoyer à d'autres références, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, pour bien comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et de pouvoir, vous, lorsque vous vous mettez à table, lorsque vous venez dans une réunion, dans un culte ou une réunion de prière ou une réunion d'évangélisation, que cela puisse vous être utile et que cela puisse vous faire grandir dans la foi. Eh oui, priez pour les prédicateurs, priez pour moi pour que je sois renouvelé, hein, parce qu'on y va quand même à la manœuvre. Hein. Il y a plusieurs réunions par semaine, hein, il faut y aller. Hein. Alors je pourrais prier, on pourrait prêcher tout simplement le superficiel de l'évangile, et c'est bien, je veux pas, mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi j'admire un homme comme Paul qui était un théologien. Et quand il nous laisse, et quand on voyons ce qu'il nous a laissé, on se dit, mais Seigneur, quelle connaissance et quelle révélation il avait du mystère de Jésus-Christ. Alors on a besoin d'évangélistes, mais on a besoin de docteurs, on a besoin d'enseignants dans la parole de Dieu. Parce qu'on s'aperçoit que quand on prend en considération, on se dit, mais vraiment cette parole, elle est divine, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Alors par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Ce matin, nous sommes venus pour louer le Seigneur, pour le bénir. Nous l'avons fait à travers les chants, nous l'avons fait d'une manière collective, ensemble. Mais nous faisons aussi individuellement. Et c'est beau lorsque nous entendons un frère, une sœur qui dit merci pour la semaine que j'ai passée. Merci parce que tu m'as touché. Merci parce que je souffre aujourd'hui, mais je viens et je te bénis quand même. Et ça, c'est l'assurance véritablement que nous allons sortir de nos problèmes et de nos difficultés. Parce que le but des épreuves et des difficultés, c'est de nous faire taire en disant « Regarde ton Dieu, il te laissait tomber. Regarde, il n'a même pas répondu à tes prières. Regarde, tu étais là dimanche dernier, tu reviens dimanche, aujourd'hui, et puis c'est toujours la même situation. Tu continues à t'inquiéter, à te tracasser. Dieu fait rien, alors tu ferais mieux de te taire. » Eh bien justement, David disait « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tout. Tout. Tous mes ennemis. » Mes frères et sœurs, il faut apprendre de ne pas nous laisser neutraliser par les effets de l'adversaire, par les suggestions de l'ennemi qui nous dit « Tu ferais mieux de te taire, t'as rien à dire. » Puis après, tu ne sais pas parler, tu es trop timide, etc., etc. Mes frères et sœurs, on veut avancer, eh bien il va falloir prendre de l'ascendant sur tout cela pour maintenant nous mettre dans une position de hauteur spirituelle et on ne va pas se laisser compter des histoires. Et on ne va pas se laisser voler notre foi et notre vie. C'est comme ça qu'on avance. Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. D'abord, la nature des sacrifices nouveaux. Ce sont plus ceux de la vie sacrifiée d'animaux, dont nous avons parlé, des animaux immolés, mais la louange, qui est l'expression du sacrifice de notre volonté propre. Il y a un effort à faire lorsque nous louons le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mes frères et sœurs qui avaient l'habitude, il y a toujours un effort. Moi, quand je dois monter sur l'estrade pour prêcher, il y a un effort. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire? Ben, vous attendez à ce que je dise quelque chose. Parce que si je suis là en train de vous faire des... Hein, je veux dire, je sais pas ce que je vais vous dire. Ben oui, ben voilà, il y a un effort. Il y a un effort en tout, hein, de toute manière. Donc, sacrifice de notre volonté propre, c'est s'offrir soi-même. Quand vous louez le Seigneur, vous vous offrez vous-même. Vous offrez à l'Église, mais vous offrez au Seigneur. Le deuxième point, c'est aussi un témoignage public. Nos lèvres qui confessent son nom. Je peux louer le Seigneur et je peux le glorifier dans ma maison tout seul. Mais il y a un endroit privilégié, c'est lorsque nous sommes en communauté. Merci Seigneur de pouvoir être dans la communion fraternelle. Bénissons le Seigneur et continuons à le prier parce que ce ne sera peut-être pas toujours vrai. Vous savez, dans les temps que nous annonce le livre de l'Apocalypse, est-ce qu'il y aura encore église, espace de rassemblement, hein? Grande question. Public. Ça paraît fondé tout ça. Ça paraît acquis. C'est peut-être pas forcément définitif. Nos lèvres qui confessent son nom, ce qui signifie que plus nos lèvres seront ferventes et sincères, moins nos mains ne resteront inactives et nos cœurs insensibles aux besoins des autres, puisque la suite nous le dit, c'est logique. C'est ça toute l'étude d'un texte. Verset 16. Nous n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité. Vous savez, quand on est rempli de louanges, de satisfaction, de contentement, on veut faire du bien aux autres. C'est normal, c'est logique. Sachant que c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà, tout simplement. Alors, comment donc devons-nous offrir ces sacrifices de la nouvelle alliance, ces sacrifices nouveaux? D'abord à travers une personne, il nous est dit par lui, par la foi. Et non pas par la loi avec ses traditions religieuses, c'est pas ça. Mais par lui. Parce que, finalement, notre Dieu ne prend plaisir qu'en son Fils, et c'est par Jésus-Christ que nous sommes introduits dans les sanctuaires divins. Quand devons-nous les offrir? Il est dit sans cesse. Alors oui, matin vous dites je veux louer le Seigneur, mais c'est sans cesse. Dans l'Ancien Testament, il y avait un strict calendrier officiel d'observance. Aujourd'hui, c'est à chaque instant que nous pouvons bénir le Seigneur. Merci Seigneur, merci et merci encore. Il y a un autre sujet de sacrifice, celui de l'obéissance. C'est le texte. Hein. En d'autres termes, la soumission mutuelle. Il est dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, car ils devront en rendre compte. » Moi, je sais que c'est ma responsabilité. Hein. Pour ça, quand il y a des tempêtes dans une église, moi, le pasteur, il bouge pas. Hein. Parce que moi, je ne suis pas partisan d'un groupe contre un autre, favorisant un groupe ou un autre. Un pasteur, c'est le pasteur de tout le monde. Et dans une église, c'est comme la société. Hein. Il y a la droite, il y a la gauche. Il y a quelquefois même les extrêmes. Mais le pasteur, il est au milieu, tout simplement. Il est un berger. Et un berger, il n'est pas pour une partie de son troupeau, et puis l'autre le laisser aller. Il est le pasteur de tout le troupeau. Et il est dit... Obéissez. Alors moi, c'est pas, je veux pas être un dictateur, hein, ça certainement pas. j'ai un gros grand respect de la liberté aussi des autres. Parce que je tiens ma liberté aussi. Et quand on est conscient de cela, eh bien, mais après, il en va de chacun selon ses responsabilités et puis selon ses choix. Maintenant, on est toujours là pour dire ce qu'il peut y avoir à dire, naturellement. Le verset 17, ce qui veut dire qu'entre autres, que tout responsable a pour mission de veiller sur l'âme de ses frères et qu'il en sera et qu'il aura à en rendre compte et par conséquence, celui ou celle n'étant pas soumis du grec dans son étymologie, qui ne cède pas. Voilà, quelqu'un qui s'obstine, quelqu'un qui ne cède pas, malgré les exhortations des frères, malgré peut-être tout ce qui peut être mis en œuvre pour l'aider, eh bien tout cela entrave l'œuvre de l'Église et du conducteur spirituel qui, lui, normalement, doit avoir une vision pour l'Église. Et la vision qui doit être la sienne, c'est d'abord l'unité, et c'est l'unité et la paix. Parce que rien ne se fait en dehors de l'unité et de la paix, quoi qu'il en soit. Et ça sera pour leur propre désapprobation ou leur désavantage spirituel. On a vu des gens qui étaient impossibles à gérer. Aujourd'hui, ils ne sont même plus dans l'Église. Mais sans qu'on n'ait rien eu à faire. C'est parce que finalement, c'était comme ça. Leur propre désavantage spirituel. Je finis. Enfin, dernier sacrifice que Dieu attend, c'est la prière. « Priez pour nous », nous dit le verset 18. Et un peu plus loin, le verset 19. « C'est avec instance que je vous demande de le faire. » Alors, en résumé, ce matin... Et en conclusion, il était question de l'amour fraternel, on en a parlé. L'hospitalité ou l'accueil, qui est la conséquence, tout ça. La compassion pour ceux qui souffrent, entre autres les prisonniers et ceux qui sont captifs. Le respect des liens du mariage, la vie familiale. Fuir les faux amours, on avait parlé de l'argent. La foi dans le secours de Dieu, c'est-à-dire, selon ses promesses, je ne te délaisserai pas. L'imitation des hommes fidèles qui ont été avant nous et qui doivent nous inspirer par leur exemple. Vivre sous la grâce et non pas sous la loi. Sortir du monde, de ce carcan, quand je dis le monde, ça peut être aussi la conception religieuse des choses. Porter et supporter l'opprobre, parce que nous vivons dans l'esprit. Sacrifier ou apporter par notre témoignage le sacrifice de la louange, le sacrifice de la générosité, le sacrifice de l'obéissance, le sacrifice de la prière, et n'est-ce pas dans la pratique, l'assurance de plaire à Dieu et de lui être agréable. Tout simplement, selon ce que nous dit ce dernier passage, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant qu'en toute chose, bien nous conduire. Ainsi le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus nous rende capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On a fait un survol de bien des points, de bien des principes, mais peut-être qu'ils sont bons pour nous rafraîchir dans notre vie. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que nous voulons nous attacher à Jésus et à Jésus seul, et qu'il nous donne la grâce d'être fidèles. Si nous lui sommes fidèles, nous serons fidèles aussi dans les choses qui appartiennent à la vie. Que Dieu nous bénisse.